Les portes de Lyon.
Le comte de Poitiers venait d'achever sa toilette lorsque son chambellan lui annonça la visite du cardinal. Très long, très maigre, le nez proéminent, les cheveux rabattus sur le front en mèches courtes et retombant en rouleaux le long des joues, la peau fraîche comme on peut la voir à 25 ans, le jeune prince, vêtu d'une robe d'appartement de camoca sombre, vint accueillir Monseigneur Duez et baisa son anneau avec déférence. Il eût été difficile de rencontrer plus grand contraste, plus ironique dissemblance, qu'entre ces deux personnages, dont l'un faisait songer à un vieux furet sorti de son terrier et l'autre à un héron traversant hautainement les marais.
« En dépit de l'heure matinale, monseigneur, dit le cardinal, je n'ai pas voulu différer de vous porter mes prières dans le deuil qui vous atteint. »«
Le deuil ? » dit Philippe de Poitiers avec un léger sursaut. Sa première pensée fut pour sa femme Jeanne, qu'il avait laissée à Paris et qui était enceinte de 8 mois.
« Je vois alors que j'ai bien agi en venant vous avertir, » reprit Duez. « Le roi, votre frère, est mort depuis 5 jours. »
Rien ne bougea dans l'attitude de Philippe. À peine une inspiration plus forte souleva-t-elle sa poitrine. Rien ne passa sur son visage, ni la surprise, ni l'émotion, ni même l'impatience d'avoir plus de détails.
« Je vous sais gré de votre empressement, monseigneur, » répondit-il. « Mais comment êtes-vous au fait d'une telle nouvelle avant moi ?»«
Par messire de Bouville, dont le messager a couru avec grand hâte, afin que je vous remette cette lettre, en secret. »
Le comte de Poitiers décacheta le pli et le lut en l'approchant de son nez, car il était fort myope. Là encore, il ne trahit rien de ses sentiments. Simplement, quand il eut achevé sa lecture, il replia la lettre et la glissa sous sa robe, puis il demeura silencieux. Le cardinal se taisait aussi, affectant de respecter la douleur du prince, encore que celui-ci ne donnât pas de grandes marques d'affliction.
« Dieu le sauve des peines de l'enfer, » dit enfin le comte de Poitiers, pour répondre à l'attitude dévote du prélat. « Oh, l'enfer !» murmura Duez. « Enfin, prions Dieu. Je songe aussi à l'infortunée reine Clémence que j'ai vue grandir quand j'étais auprès du roi de Naples. Une si douce, une si parfaite princesse. »
« Oui, c'est profonde pitié pour ma belle-sœur, » dit Poitiers. Et en même temps, il pensait « Louis n'a laissé aucune volonté relative à la régence. Déjà, ce que m'écrit Bouville, notre oncle Valois se prévaut de droits illusoires.
Qu'allez-vous faire, monseigneur? Allez-vous séant regagner Paris?
Demanda le cardinal.
Je ne sais encore, répondit Poitiers. J'attends d'être plus amplement informé. Je me tiendrai à la disposition du royaume.
Bouville, dans sa lettre, ne lui cachait pas qu'il souhaitait son retour. Et comme premier frère du roi mort, et comme père, sa place était manifestement à Paris au moment qu'on y débattait de la régence. Un autre eut déjà donné l'ordre de sceller les chevaux. Mais Philippe de Poitiers éprouvait du regret et même de la répugnance à l'idée de quitter Lyon sans avoir achevé les tâches entreprises. D'abord, il voulait conclure le contrat de fiançailles entre sa troisième fille, Isabelle, âgée de moins de 5 ans, et le dauphinier de Viennois, le petit Guigues, qui en avait 6. Il venait de négocier ce mariage, à Vienne même, avec le dauphin Jean II de la Tour du Pin et la dauphine Béatrice, sœur de la reine Clémence. Bonne alliance, qui permettrait à la couronne de France de contrebalancer dans cette région l'influence des Anjou-Siciles. Date était prise à quelques jours de là pour l'échange solennel des signatures. Et surtout, il y avait l'élection papale. Depuis plusieurs semaines, Philippe de Poitiers sillonnait la Provence, le Viennois et le Lyonnais pour voir l'un après l'autre les 24 cardinaux dispersés, leur assurant que l'agression de Carpentras ne se reproduirait pas, qu'il ne leur serait fait nulle violence, laissant entendre à beaucoup qu'ils pouvaient avoir leur chance, plaidant pour le prestige de la foi, la dignité de l'Église et l'intérêt des États. Enfin, à force de paroles, de promesses et parfois d'argent, il avait réussi à les rassembler à Lyon, ville longtemps placée sous autorité ecclésiastique et très récemment passée dans les dernières années de Philippe le Bel sous le pouvoir direct du roi de France. Le comte de Poitiers se sentait prêt de toucher au but, mais s'il s'éloignait, toutes les difficultés n'allaient-elles pas renaître? Les haines personnelles se rallumaient, l'emprise de la noblesse romaine ou celle du roi de Naples supplantait celle de la France. Les divers partis recommençaient à s'accuser mutuellement de trahison et d'hérésie. Et ne verrait-on pas, au bout de tant de dissensions, la papauté repartir pour Rome?
Ce que mon père voulait tellement éviter,
se disait Philippe de Poitiers. Son œuvre, déjà si fort gâtée par Louis et par notre oncle Valois, va-t-elle être tout entière détruite ? Pendant quelques instants, le cardinal de Haise eut l'impression que le jeune homme avait oublié sa présence. Et soudain, Poitiers lui demanda « Le parti gascon songe-t-il à maintenir la candidature du cardinal de Pellagru ? Et pensez-vous que vos pieux collègues soient enfin disposés à siéger ? Assoyez-vous donc ici, monseigneur. Et dites-moi bien votre sentiment. Où en sommes-nous ?